Chalim était compté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lors de notre dernière émission, nous avions évoqué toute une liste d'abbés commendataires qui avaient défilé, je ne sais pas si le terme est exact, à Chalim, avec un point commun, c'est-à-dire en tirer un maximum de bénéfices sans se préoccuper de l'état de l'abbaye, pas plus que de la vie des moines. On peut dire que la commande a été donc, pendant cette période, particulièrement néfaste pour l'abbaye royale de Chalim. Lorsque le comte de Clermont, le plus illustre des abbés commendataires du XVIIIe siècle, vient s'installer à Chalim, ce n'est pas un personnage anodin, c'est un Bourbon Condé, les cousins sont, et aussi l'arbre généalogique figure pas loin d'ici à Chantilly, n'est-ce pas ? Le comte de Clermont est un personnage tout à fait atypique, on a déjà en partie évoqué. N'hésite pas à engager des procès aussitôt qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens qu'il souhaite. Propriétaire de Chalim, on peut le dire, au moins pour les deux tiers de la manse abbatiale, en gros, il retire deux tiers des bénéfices, voilà ce que ça veut dire. Eh bien, il décide, un, de démolir tous les bâtiments médiévaux hors la chapelle Sainte-Marie et l'église abbatiale, pour reconstruire dans un style moderne, celui du XVIIIe, un art classique qui est représenté par, entre autres, l'architecte qu'il choisit, Jean Aubert, que sa mère avait déjà choisi d'ailleurs. Je ne parle pas de la mère de Jean Aubert, mais du comte de Clermont, et aussi bien sûr sa famille, puisque c'est le même Jean Aubert qui a édifié les grandes écuries de Chantilly. Lorsqu'il décide donc d'aménager Chalim ou de reconstruire Chalim, se pose pour lui un problème récurrent, à savoir le problème de l'eau potable. On a vu que les moines de Chalim ne disposaient pas sur leur terre d'eau potable en amont des installations. À l'époque, évidemment, il n'y a pas de surpresseur, il n'y a pas les engins que nous connaissons maintenant pour faire évoluer l'eau potable dans les tuyauteries, n'est-ce pas ? Donc on ne pouvait utiliser l'eau potable que si elle parvenait à l'abbaye que par gravitation, si la pente, évidemment, était favorable pour amener l'eau jusque-là. Eh bien, il n'y a pas de source, tout simplement, en amont. Ou plutôt, il y en a une, mais elle appartient depuis le XIIIe siècle au seigneur d'Ermenonville. Et on sait toujours que le voisinage entraîne parfois des difficultés. C'est vrai encore maintenant, hein, la branche du voisin qui passe par-dessus le grillage, etc. C'est un cas assez banal. Là, il est un peu plus d'importance, car tout simplement, les seigneurs d'Ermenonville ont commis apparemment quelques délits sur l'adduction en eau potable de l'abbaye. Et le comte de Clermont n'hésite pas. Il fait un procès. C'est vrai, que je répète, que les seigneurs d'Ermenonville n'avaient de cesse de remettre en cause les accords passés avec les religieux à propos de la fontaine, cette fontaine donc qui était installée sur le domaine seigneurial, pas sur l'abbaye, si je me suis bien fait comprendre. Alors, on a retrouvé les textes. Eh bien, on va écouter le début de cet engagement en justice.
Sur le procès qui est actuellement pendant, en la seconde chambre des requêtes du palais à Paris, entre les prieurs et religieux de Chalim, tant en leur nom qu'en celui de Son Altesse Monseigneur Louis de Bourbon, prince du sang, comte de Clermont, abbé commendataire de la dite abbaye de Chalim, d'une part, et messire Gédéon François Lombard, chevalier, seigneur vicomte d'Ermenonville, fils et légataire universel de défunt Claude-Louis Lombard, vicomte d'Ermenonville et d'autre part, à l'occasion d'une fontaine qui fournit de l'eau à l'abbaye de Chalim et qui est dans sa prairie d'Ermenonville.
Donc, on a les deux parties en présence. D'un côté, le seigneur d'Ermenonville, un certain Lombard, et de l'autre côté, le comte de Clermont. Les religieux de Chalim ont dans la grande prairie d'Ermenonville un regard qui renferme et contient une fontaine, nous dit l'acte. Dans le même regard, il y arrive deux tuyaux de plomb qui sont dans leur cours enfoncés en terre de deux pieds. Ces deux tuyaux, ils conduisent l'eau des deux sources qui sont encore dans cette prairie. À plusieurs toises du regard est un cours d'eau que le seigneur d'Hermenonville a changé en s'approchant à une toise et deux pieds du regard. Après le changement du lit du cours d'eau, il est survenu un accident. Une des deux sources qui sont hors le regard s'est perdue dans le lit du cours d'eau et a cessé de porter les eaux dans le regard. On a bien représenté une requête contre le seigneur d'Hermenonville le 17 mars 1726, en vain. Monseigneur, le comte de Clermont, dans la production d'octobre 1727, a demandé que le seigneur d'Hermenonville soit tenu de charger le lit actuel du cours d'eau ou de faire un mur dans la partie de ce cours d'eau où coule actuellement une source qui se portait dans un regard bâti sur le territoire d'Hermenonville. Alors, on pourrait continuer comme ça à lire ce début de l'acte du procès. Il faut simplement rappeler que les religieux vont amener devant les juges deux titres, comme quoi il faut toujours garder ses archives, n'est-ce pas ? Deux titres, un de Hugues, grand bouteiller de France en 1220, nous sommes en 1726-1727, et on va donc utiliser des textes qui concernent donc ces années 1220-1230. Du grand bouteiller de France, son nom l'indique bien, il était chargé des bouteilles du roi de France, tout simplement, d'où son nom de bouteiller, d'une façon générale de l'approvisionnement de la cour de France. Et un de son fils Guy, grand bouteiller de France, en 1229. Et bon, finalement, le procès dure, mais le seigneur d'Hermenonville décide, à un moment donné, d'abandonner ses prétentions. Et les religieux de Chély continuèrent de boire de l'eau du regard, comme ils le faisaient depuis plus de 500 ans. Tant mieux pour eux, mais il faut dire que c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Ce n'est pas évidemment ce vicomte de Lombard qui avait les épaules assez larges pour lutter contre un prince du sang. Alors, ce prince du sang, on l'a longtemps vilipendé en disant que c'est un libertin. Alors bon, le terme libertin de nos jours a une signification un peu différente, enfin un peu exclusive. Alors qu'à cette époque, libertin, évidemment, comportait une légèreté dans les mœurs, n'est-ce pas ? Mais également la notion de liberté, c'est-à-dire de contestation du pouvoir royal. Alors, comment faire et que faire ? On peut déjà souligner que le comte de Clermont avait dû obligatoirement devenir religieux, mais que sa tête était mieux faite, n'est-ce pas, pour être à côté du roi que pour vivre la vie de moine selon la règle de Saint-Benoît. On dit que sa nature ardente et chevaleresque, voluptueuse et frivole, le destinait à la carrière militaire, à la vie fastueuse, au plaisir. Mais sa qualité de cadet, car bien c'était là son problème, le condamnait fatalement à l'obscurité, à l'inaction, à l'isolement des dignités ecclésiastiques dont il essaie souvent d'en sortir. C'était à la fois le sabre et le goupillon, mais officiellement, c'était le goupillon qui devait l'emporter. Alors, quant à la vie légère du comte de Clermont, on n'a que le choix quant au témoignage. Ainsi, un de ses contemporains, un certain Mathieu Marais, nous raconte cette aventure, une des premières aventures du comte de Clermont.
Le prince de Clermont, qui n'a que 15 ans, en a conté à Madame de Grave, qui n'a pas fait la difficile et qui n'a pas voulu refuser un prince du sang. Le mari, qui les a pris sur le fait, s'est voulu fâcher, puis s'est pris à rire. L'aventure a fait beaucoup rire le roi. Le prince a raconté le détail de sa bonne fortune. Il lui a vu plus que les pieds et dit comme tout est fait. La marquise de Grave était fille du maréchal de Matignon. Quand une femme est soupçonnée d'une galanterie un peu forte, on dit qu'elle est grave.
Ah oui, elle est grave, c'est une expression d'ailleurs qu'on a conservée, peut-être pas avec cette précision quant au fait qui peut être reproché à la dame ou personnage en question, mais on continue à utiliser ce qualificatif. Bien, les tendances littéraires du comte de Clermont vont se manifester assez tôt, dès sa première jeunesse, donc à l'âge d'une vingtaine d'années, vers 1729-1730. Tout d'abord, il avait établi dans son hôtel particulier, évidemment, une sorte d'académie qui parut alors fort singulière. On est là, si vous voulez, avant que ne soit rédigée l'encyclopédie. Et il y a déjà cette idée de réunir au même endroit le maximum de savoir, une espèce de grande compilation, en quelque sorte, du savoir à une période donnée, et donc dans la première partie du XVIIIe. Alors, l'encyclopédiste, je serais tenté de dire, d'Alembert, dans son éloge lu en 1781, au moment où il accède à l'Académie, il donne des détails intéressants sur ce que fut l'Académie à cette époque. Mais il précise aussi quelques petites histoires concernant le comte de Clermont. Il disait qu'il avait témoigné avec bonheur un goût pour les lettres, qu'il avait formé une société qui avait pris le titre de Société des Arts. Cette espèce d'académie, en quelque sorte, devait réunir à la fois les sciences, les lettres et les arts mécaniques, ce qui est tout à fait novateur. Le projet était grand, mais sans doute trop vaste et fut d'ailleurs, dit d'Alembert, trop mal combiné. Si l'on continue dans les aventures galantes du comte de Clermont, ça fait du bien d'être un peu léger de temps en temps, eh bien nous sommes en 1730 et nous retrouvons le comte de Clermont qui est à cette époque l'amant en titre de la duchesse de Bouillon. Quand la mort mystérieuse d'une comédienne, qui est restée dans l'histoire, hein, Adrienne le Couvreur, fait planer sur cette princesse, sur la duchesse de Bouillon, d'odieux soupçons. Il avait, le comte de Clermont, il faut le savoir, pour rivaux, dans ce cœur famélique, on parle de la duchesse de Bouillon, outre le comte de Saxe, qui déclinait énergiquement cet honneur, et les premiers sujets de l'opéra et de la comédie, car la duchesse possédait un goût particulier pour les gens de théâtre. Donc cette duchesse, amante du comte de Clermont, portait son choix, un peu comme faisaient les hommes à cette époque, sur le personnel du théâtre ou de l'opéra. Elle n'avait pris le comte de Clermont qu'en manière de pavillon d'honneur. Hein. « Je suis la maîtresse du comte de Clermont » pour couvrir tous ses caprices, toutes ses dépravations. Cette spécialité, bien connue, valut à Madame de Bouillon des couplets assez vifs. Alors, pour la petite histoire, disons que le comte de Clermont, finalement, sans doute un peu lassé, échangea la Bouillon avec Sourdis contre une autre, hein, une autre de l'opéra, qu'on appelait la Camargo. Mais là, ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas, cet aspect frivole de la vie affective du comte de Clermont. Revenons un petit peu aux lettres, et ce n'est pas sans surprise qu'on va trouver la présence d'un écrivain beaucoup plus connu par la suite, un certain Arouet Voltaire. Hein. Car en 1732, notre Voltaire écrit à Moncrif. Alors Moncrif, c'est un homme de lettres, qui sera plus tard d'ailleurs lui aussi académicien. Il est secrétaire des commandements du comte de Clermont, probablement jaloux de la renommée de Voltaire, bien que celui-ci fût encore fort jeune. Ce Moncrif parle de Voltaire. Il dit que ce grand homme, jouait volontiers de l'encensoir, vous voyez ce que ça veut dire, flattait souvent, pourvu que ne se fût point en face des autels. On savait évidemment qu'il était relativement athée. Je dis relativement, puisque la fin de sa vie sera un peu différente. Il brûle quelques grains de mire en l'honneur de notre prince, le prince de Clermont, dont il sollicite la protection pour son hériphilie. L'hériphilie, c'est une pièce de théâtre qui a disparu évidemment des œuvres complètes dans la mesure où sa facture n'était pas quand même de première intention. Alors, je n'ai pas ici l'occasion de parler d'Adrienne le Couvreur, première actrice de la comédie française, qui est morte quand même assez jeune, à l'âge de 35 ans. On dit d'une dysenterie, mais vous savez, les témoignages sont très légers. Et en tous les cas, pour ne pas évoquer toute l'histoire, disons qu'à un moment donné, un prisonnier de la Bastille, un abbé, commence à dire, vous savez, Adrienne le Couvreur a été empoisonné par la duchesse de Bouillon, et voilà comment va se répandre cette calomnie. Et vous savez que contre la calomnie, il est difficile de se battre, calomnier, calomnié. Il en restera toujours quelque chose. Cette calomnie, on la connaît sous d'autres formes. Non pas que je veuille faire un grand pas dans l'histoire, mais quand on parle du harcèlement dans les réseaux sociaux, elle est du même genre. Comment voulez-vous lutter contre, effectivement, ces calomnies insidieuses, souvent anonymes en plus, hein, qui engagent la vie personnelle et affective, évidemment, des plus jeunes en général. Alors, Voltaire ne s'en tint pas pour autant déçu, puisque l'année suivante, il va dédier sa pièce de théâtre, puisque monsieur le comte de Clermont n'en veut pas, eh bien, il va la donner à un certain Franchini, il va l'envoyer à Florence, etc., etc. Mais il veut quand même renouveler son expérience auprès du comte de Clermont, car il a bien compris, notre Voltaire, que celui-ci jouit d'une place prépondérante non seulement dans la famille royale, mais aussi dans le monde des lettres. Voilà ce qu'il écrit.
« Non, je n'étais point fait pour aimer la grandeur. Tout éclat m'importune et tout faste m'assomme. Mais Clermont, malgré moi, subjugue enfin mon cœur. Je crois n'y voir qu'un prince, j'y rencontre un homme. »
Vous voyez, ce sont des propos extrêmement flatteurs que tient Voltaire par rapport au comte de Clermont. Et il écrit après au secrétaire du comte de Clermont, donc à Moncrif.
« J'ai par deux fois votre Altesse ratée. Cela veut dire, hélas, tout simplement, que ma muse deux fois s'est en vain présentée pour vous faire son compliment, heureux qui serait à portée de rater effectivement votre personne tant vantée. »
Bon, c'est pas une poésie extraordinaire. Cela est un peu singulier à présenter à un saint abbé comme Monseigneur le comte de Clermont. Monseigneur le comte de Clermont comme saint abbé, on a du mal, après ce qu'on vient de dire, à croire à cette assertion. Alors, pour quelle raison, finalement, le comte de Clermont ne va pas recevoir Voltaire ? Voltaire poursuit néanmoins sa cour.
Il faut se lever de bon matin pour voir les princes et messieurs leurs confidents. Il n'y a pas moyen, mon cher Moncrif, que quelqu'un qui arrive à midi trouve un chat à l'hôtel de Clermont. Je venais vous faire une proposition hardie. C'était de m'aider à travailler auprès de son Altesse pour obtenir de lui qu'il honorât nos dîners les dimanches de sa présence.
Alors les dîners du dimanche, ce sont des dîners que Voltaire donnait régulièrement et où il recevait les gens de la cour, où il recevait aussi d'autres savants ou écrivains. Malgré ces paroles évidentes pour attirer la sympathie du prince abbé, il est peu probable que celui-ci ait honoré ses soupers de sa présence. La coquetterie de Voltaire se multiplie, mais tout ça ne semble pas avoir séduit le prince. Il ne lui témoigna jamais d'une quelconque bienveillance, ou plutôt quelques propos assez tièses rapportés par Moncrif. Mais peut-être que c'est là que gît le lièvre, n'est-ce pas ? Car Moncrif, enfin courtisan, ne se souciait guère d'introduire dans la familiarité de son maître un rival dangereux. Il a sans dit que la qualité de Voltaire, la qualité première, eh bien, était parfaitement adaptée pour tenir en quelque sorte ce qu'on appelle de nos jours le secrétariat général du comte de Clermont. Et on peut poursuivre en disant que ce fameux Moncrif, par la toute-puissante influence de son Altesse, il va en bénéficier. L'auteur de l'Histoire des chats, c'est peut-être une des œuvres les plus importantes de Moncrif, bien qu'il ait répudié par ailleurs, entra en effet à l'Académie, grâce bien sûr au comte de Clermont. En eût-il été de même si Voltaire avait pu, comme lui, prendre pied à l'hôtel de Clermont, on pense que l'arrivée de Voltaire à l'Académie aurait été beaucoup plus hâtive. Venons maintenant, on va repartir dans les aventures galantes. Il y a les ânes galantes, mais il y a les aventures galantes. Passons maintenant à la maîtresse suivante, la Camargo. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Alors la Camargo gouverna pendant 8 ans le cœur de Monseigneur, le comte de Clermont. Elle mérite à ce titre une place d'honneur dans notre galerie. Toutes les histoires du théâtre, tous les poètes contemporains vous diront ses succès. Et ses triomphes, nous qui cherchons la femme plutôt que l'artiste, nous aimons mieux demander aux chroniques secrètes de la police des révélations encore ignorées. Elle se faisait appeler Cupis de Camargo. elle devint danseuse à l'opéra. On disait qu'elle demeurait rue et porte Saint-Honoré, près le boulevard. Et si on veut l'en croire, elle descend d'une famille illustre en Castille. On peut effectivement douter de cette affirmation. En tout cas, la branche dont elle est issue a bien dégénéré en France, car le sieur Camarago, ou Camargo, son père, n'a jamais été recommandable que dans les guinguettes aux environs de Paris. Il allait racler du violon. Ouais, c'est l'impression qu'on donnait quand on jouait du violon sur des airs populaires. J'en profite pour dire que le violon n'était pas du tout un instrument de cour. Il était même rejeté avec beaucoup de dédain. Je prends un exemple qui est très proche de nous, c'est René Girardin, celui qui va accueillir beaucoup plus tard Jean-Jacques Rousseau, avait interdit à ses enfants de jouer du violon. Trop populaire. Et lorsque l'un d'entre eux va s'aviser, Stanislas, de jouer du violon, il va le surprendre sur le fait et il va briser le violon, c'est comme dans la chanson. Donc, on peut douter évidemment de la qualité de la généalogie de la Camargo. En tous les cas, elle va débuter à l'opéra en 1726 et on dit que grâce à ses talents, elle va effacer toutes celles qui l'avaient précédée. En quoi on l'admirait ? Les dispositions extraordinaires qu'elle avait pour ce genre, puisqu'elle dérobait à la vue les défauts de sa taille et rendait supportable une figure aussi laide et aussi ingrate que la sienne. Bon. Alors vous voyez, on s'attendait à trouver une actrice avec des charmes tout à fait extraordinaires, selon le témoin de l'époque, mais bon, faut-il le croire, ça n'était pas le cas. Malgré tous ses défauts, donc, elle a déclenché de grandes passions. On dit que le prince de Melun s'en est amouraché peu de temps après qu'elle fut entrée à l'opéra. Entre les deux, il lui fait un enfant, et il lui donna quand même de grands biens. Mais la demoiselle Camargo, qui passait pour la fille la plus lubrique de Paris, ne se contenta pas de ce simple ordinaire. Elle lui donna pour adjoint les trois des plus beaux cavaliers de ce temps, le duc de Richelieu, le marquis de Firmacon et le sieur de Vitry, ancien garde du roi, homme à bonne fortune, surnommé le beau berger. Entre nous, il est mort fort jeune, en 1746, de la syphilis. Il avait récolté ce qu'il avait semé, en quelque sorte, la syphilis. Je recevais des Italiens il y a peu de temps à Échali et ils me faisaient remarquer que les Italiens appelaient ça le mal français, hein, cette syphilis qui va nous occuper aussi au XIXe siècle. Mais en bon retour de choses, eh bien, les Français appelaient ça la maladie italienne, hein, la maladie florentine. Alors ce sieur de Vitry, garde des corps, il est intéressant pour notre histoire régionale parce que, étant capitaine des chasses, il va venir s'installer à Nanteuil, que possédait donc la maréchale d'Estrées. Et donc, elle lui avait proposé cette retraite un peu dorée, pour bien le dire, pour malheureusement y terminer sa vie. Alors, bon, on aurait pu continuer à évoquer la fameuse demoiselle de Camargo. Celle-ci va ensuite tomber amoureuse d'un... Alors, tomber amoureuse, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire tomber amoureuse surtout des revenus que sa fonction, entre guillemets, si tant est que ce soit une fonction d'être la maîtresse d'un grand, pouvait lui procurer. En tous les cas, elle s'est bien débrouillée et, d'une façon générale, elle vécut dans une certaine opulence. Alors, cette demoiselle de Camargo, il fallait petit à petit songer à la remplacer. Et on va trouver... assez rapidement, une jeune femme. Alors, au passage, il a fait encore deux enfants. On va se venger, et cette nouvelle maîtresse, on va l'appeler la Leduc. Alors, c'est bientôt, évidemment, une nouvelle aventure qui commence, mais là encore, la demoiselle Leduc était avec un autre amant, et il fallut un peu de persévérance, qui allait rapidement porter ses fruits, puisque 18 mois après que la demoiselle Leduc était avec le comte de Clermont, elle accoucha d'une fille.
C'était « Si Chalim était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chalim.